Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie, puisque l'année 2012 est dite officiellement année Rousseau, et bien que Rousseau ne compte pas parmi les académiciens, Canal Académie vous propose deux émissions avec l'un des meilleurs connaisseurs de la pensée et l'œuvre de Rousseau, Raymond Trousson, que j'ai le plaisir d'accueillir en notre studio. Bonjour Monsieur Trousson.
Bonjour Madame.
Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous venez de Bruxelles, vous étiez professeur d'ailleurs de littérature comparée à l'Université libre de Belgique. Vous êtes membre de l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Vous avez été élu en 1979 et vous êtes surtout un spécialiste de la pensée et de la littérature du XVIIIe siècle. On vous doit de nombreux ouvrages, dont le dictionnaire Voltaire, paru chez Hachette, le dictionnaire Diderot, paru chez Honoré Champion, ainsi qu'une biographie consacrée à Antoine-Vincent Arnaud, qui était académicien, paru en 2004, et puis le dictionnaire Jean-Jacques Rousseau, qui lui est paru aux éditions Honoré Champion, dans une version reliée, dans une version un peu plus souple. On ne peut pas dire poche, parce que c'est quand même assez gros, donc ça alourdit un peu la poche.
Disons compact.
Compact, voilà, c'est le juste mot. Alors aujourd'hui, ce dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, publié sous la direction de Raymond Trousson et Frédéric Egeldinger, publié aux éditions Honoré Champion, donc, est notre référence pour vous proposer deux émissions. La première, celle-ci, qui sera consacrée à six mots de Jean-Jacques Rousseau sur lesquels on ne l'attend pas, c'est-à-dire des mots inattendus dans son œuvre. Et puis une seconde émission qui sera consacrée à six autres mots, disons plus classiques, plus évidents, plus essentiels, pour approcher au mieux l'œuvre et la pensée de Rousseau. Alors un tout petit mot d'abord, Monsieur Trousson, si vous voulez bien, sur ce dictionnaire Rousseau que vous avez dirigé, qui évidemment, comme tous les dictionnaires, est important, 1 millier de pages, 700 articles environ, répartis en 4 catégories, les œuvres, les personnes, les lieux, les thèmes, c'est ça?
C'est bien ça.
Alors combien de temps pour faire un tel dictionnaire?
Il n'en a pas fallu tellement, grâce au concours des collaborateurs, bien entendu, il y en avait près d'une centaine.
Une centaine,
ce qui
oui.
Qui permet de faire un travail relativement rapide et qui, au fond, s'imposait tout simplement à cause de l'inflation énorme de la recherche et de l'érudition. C'est un dictionnaire qui permet de faire le point, à un moment donné, sur l'ensemble des connaissances à propos de Rousseau. Chaque article étant d'ailleurs accompagné d'une bibliographie qui permet aux curieux d'aller encore plus loin s'ils le souhaitent. C'est avant tout un ouvrage pratique, c'est un usuel.
Oui, donc ça peut servir aux étudiants, aux professeurs,
bien
à tous
sûr.
Ceux qui veulent approfondir la pensée de Rousseau, mais aussi dans chaque article, vous donner évidemment l'essentiel de ce qu'il faut savoir.
Bien entendu, il y a donc, comme vous le disiez, 4 rubriques. L'une concerne la liste complète de toutes les œuvres de Rousseau qui sont analysées et commentées.
Combien d'œuvres a-t-il fait? Enfin, combien on en compte?
Oh, il est assez difficile de dire ça à un chiffre près, mais enfin, on pourrait parler d'une cinquantaine au moins de
d'œuvres.
Textes qui comptent. Ensuite, il y a la liste des personnages avec lesquels Rousseau a pu être en rapport et qui ont eu avec lui des relations plus ou moins serrées, depuis Voltaire, Diderot jusqu'à Madame de Varins. Il y a une liste des lieux par lesquels il a passé, car il a, souvent contre son gré d'ailleurs, beaucoup voyagé. Et enfin, il y a, bien entendu, une liste importante de la thématique rousseauiste. Des choses comme amitié, bonheur, amour, athéisme, tout ce que vous voulez.
Alors justement, ce sont les thèmes de Rousseau, en tout cas par 6 mots, on n'en a choisi que 6 parce qu'on ne peut pas faire tout le dictionnaire en une émission, que nous allons aborder maintenant. Donc on va commencer par le premier, c'est commence par un B, c'est botanique. Alors vous avez la parole sur le mot botanique, Monsieur Trousson.
Bon, il est certain que pour le grand public, ce n'est pas le Rousseau botaniste qui est le plus connu. Mais la botanique a joué un rôle extrêmement important dans la vie de Rousseau. Il l'a approché pour la première fois, et sans grand intérêt d'ailleurs, alors qu'il est encore tout jeune. Il est avec Madame de Varins à Annecy et à Chambéry, laquelle Madame de Varins avait un intendant nommé Claude Annet, qui faisait de l'herborisation, mais dans un but bien spécifique, qui était d'ailleurs celui aussi de Madame de Varins, C'était, disait Rousseau, une occupation d'apothicaire. À quoi peuvent servir les plantes sur le plan médicinal? C'est une étude qui n'a jamais intéressé Rousseau et ne l'intéressera jamais. En revanche, à partir de 1762, lorsqu'il est exilé en Suisse, près de Neuchâtel à Mautier-Travers, le désir de changer de vie, de se distraire un petit peu de tous ses ennuis, l'amène peu à peu, dans ses promenades à la campagne, à vouloir en savoir plus sur les plantes, sur les arbres, sur tout ce qui représente au fond la création divine et qui permet d'admirer Dieu dans ses œuvres. Et il apprendra la botanique, comme il a fait de tout le reste, que ce soit la philosophie, la littérature ou la musique, en autodidacte. Et au contact aussi de quelques botanistes, comme Divernois, le docteur Gagnebin, plus tard des gens comme Daubranteau, Antoin, Claret de la Tourette. Il aurait aussi une correspondance avec le grand Linné, le grand spécialiste de l'époque, avec la duchesse de Portland, qui était elle-même une herboriste de talent. Et la botanique va être pour lui non seulement un véritable bonheur et un oubli de ses souffrances, de ses maux, des persécutions qu'il subit, mais aussi l'occasion d'une étude qui, par moments passionnée, par moments un peu abandonnée, tout simplement parce qu'il a l'impression de ne guère progresser. Et c'est ce qui va d'ailleurs lui inspirer l'idée, qui était original à l'époque d'ailleurs, de clarifier la botanique. En effet, à l'époque, les ouvrages sur la botanique sont des ouvrages savants et rédigés en latin. Ils ne sont donc pas à la portée de tout le monde, premier inconvénient. Deuxième inconvénient, selon les botanistes et leur nationalité, les mêmes plantes portent des noms différents. Il y a là toute une série de synonymes qui brouillent évidemment les cartes. Il aura, lui, l'intention de donner des descriptions précises, d'inventer des caractères descriptifs pour la détermination des plantes et de briser ce chaos de la synonymie. Il aura aussi un but pédagogique. Il écrit par exemple, vers la fin de sa vie, de longues lettres à Madeleine de Lesser, qui était une ancienne amie, qui voulait apprendre un peu de botanique à sa fille. Ce sont des lettres admirables de clarté, de précision, de nuance dans l'observation, et il entreprendra, il est resté inachevé, il entreprendra même un dictionnaire de botanique. C'est dire que, une fois de plus, cet autodidacte a véritablement réussi à s'élever à un niveau qui n'était pas négligeable, puisqu'il a pu dialoguer avec des botanistes aussi éminents que Linné ou Daubenton, et ceux qui travaillaient ici au Jardin du Roi, qui étaient évidemment d'éminents spécialistes, et auprès desquels, au somme, il ne pâlit pas.
Alors j'aurais envie de vous poser deux questions. D'abord, est-ce que cette passion d'aller au fond des choses est un trait de caractère typique de Rousseau? Et la deuxième question, est-ce que cette passion le mène par exemple jusqu'à faire un herbier?
Ah bien sûr! Il a fait au cours de sa vie toute une série d'herbiers, on en connaît encore quelques-uns d'ailleurs, qui sont conservés dans différents fonds d'archives ou de bibliothèques. Et il avait même à la fin de sa vie, pour arrondir un peu ses maigres revenus, il avait même eu l'idée de faire de petits herbiers qu'il aurait pu vendre à des curieux, des collectionneurs, des jeunes gens, des enfants. Il y a renoncé tout simplement parce que ses herbiers lui demandaient trop de travail et qu'il aurait dû les vendre à un prix qui n'était plus intéressant. Mais là aussi, il a tenu à faire cela et il a échangé fréquemment d'ailleurs des plantes qu'il découvrait à droite et à gauche avec d'autres amateurs, d'autres botanistes.
Et donc c'est un trait de son caractère d'aller comme ça au fond des choses, dans des disciplines sur lesquelles apparemment il n'est pas forcément compétent au départ.
Oui, dès le jeune Rousseau d'ailleurs, il y a une véritable volonté d'apprendre. Et il le dit d'ailleurs dans ses confessions, être arrivé à 25 ans sans rien savoir, c'est bien souligner l'urgence de la chose. Et chaque fois qu'il aborde quelque chose, il le fait en effet avec une opiniâtreté et une ténacité absolument stupéfiantes, qui finiront par le rendre véritablement spécialiste dans des domaines où on ne l'attendait pas, comme par exemple la botanique, bien sûr. Il a d'ailleurs fait aussi des institutions chimiques, ce qui montre l'intérêt de Rousseau pour la science, cette science qu'il avait sévèrement condamnée dans le discours sur les sciences et les arts en 1750.
Après le mot botanique, autre mot qui m'a surprise dans ce dictionnaire, le jeu d'échecs. Il était joueur d'échecs?
Oui, il avait été initié au jeu d'échecs, là aussi, à l'époque de Madame de Varins, par une connaissance de la dame qui s'appelait Bagret et qui lui avait appris les rudiments du jeu d'échecs. Et comme d'habitude, comme vous venez de le souligner d'ailleurs, Dès quelque chose l'intéresse, il se passionne. Il se met donc à dévorer tous les traités d'échecs existants à l'époque, comme ceux du Calabret, le Greco, etc. Et il s'entête à les apprendre par cœur en dépit de son défaut de mémoire, car il a peu de mémoire, il s'en plaint constamment. C'est à ce propos d'ailleurs qu'il a cette expression, il dit « l'épée use le fourreau et mes passions m'ont tué ». Et les échecs vont devenir en fait une véritable passion.
Passion, il va être addict, comme on dit aujourd'hui.
Absolument, au point de s'abrutir littéralement de lecture, de traités, d'échecs, de jouer des parties, etc. Cette passion, au fond, épisodiquement, évidemment, il n'aura pas toujours l'occasion de le faire, mais cette passion ne le lâchera plus. Il joue aux échecs à Paris, au célèbre café de la Régence, dans les années 42-43, puis on le retrouvera d'ailleurs au même endroit, après 1770, lorsqu'il revient d'exil. Et les gens s'attroupent pour le voir jouer. Il a joué notamment contre quelqu'un qu'il avait connu et qui était aussi un musicien d'ailleurs, c'est le fameux Philidor, qui était le génie des échecs de cette époque-là. Et là aussi, Rousseau se montre un redoutable adversaire. Il y a dans les confessions une anecdote à ce sujet. Le prince de Conti, qui était un prince du sang, était venu lui rendre visite dans sa retraite à Montmorency. Et le prince de Conti se piquait d'être un champion aux échecs, ce que lui confirmaient bien entendu tous ses courtisans, notamment le chevalier de Lorenzi qui était son partenaire habituel et qui avait la sage précaution de toujours perdre. Et Rousseau raconte que lui, il a joué deux parties contre le prince de Conti, l'a battu les deux fois à plate couture en lui déclarant à la fin « Je respecte trop votre seigneurie pour ne pas toujours la battre aux échecs ».
Oui, en effet. Il y a des risques, mais il a peut-être eu raison.
Oui, bien sûr, mais c'est ce qui se faisait de lui aussi un personnage atypique. Oui.
Troisième mot que nous pouvons évoquer avec Raymond Trousson, un mot qui se trouve évidemment dans le dictionnaire de Rousseau, un mot surprenant, c'est le mot musique. Car Rousseau n'est pas considéré comme un musicien. En quoi est-il musicien ?
Mais vous auriez fort étonné les gens en disant cela si vous l'aviez dit en 1749.
Oui.
Car si Rousseau a alors l'ombre d'une réputation, il est inconnu en fait, mais enfin s'il a l'ombre d'une réputation, c'est comme musicien. Il a composé très tôt. Et là aussi, il est pour la plus grande partie un autodidacte.
Mais très tôt et beaucoup ou quelques petites choses ?
Non, pas du tout. Il a commencé à s'intéresser de près à la musique, là encore une fois, à l'époque des Charmettes et de Madame de Varin, ce qui lui permet évidemment d'approfondir son savoir et de faire des études par lui-même. Il a suivi aussi quelques leçons, notamment avec le maître et un autre organiste. Et il s'est lancé là-dedans au point, lorsqu'il monte à Paris en 1742, de croire qu'il a dans sa poche le secret de la fortune. Il s'agit d'un projet concernant de nouveaux signes pour la musique.
Une notation différente.
Une notation où les notes étaient remplacées par des chiffres. Mmh. Et qui, selon lui en tout cas, rendait la lecture et l'apprentissage de la musique beaucoup plus simple et beaucoup plus commode. Ce projet est présenté le 22 août 1742 à l'Académie des sciences et n'emporte guère de succès. Oui, on le complimente, bien sûr, on lui dit qu'il a fait un travail intéressant. Mais enfin, lui dit-on, ce n'est pas tellement original. D'autres avaient déjà plus ou moins abordé ça avant vous, notamment un certain père Souetti, dont il n'avait d'ailleurs jamais entendu parler. Et Rousseau a tenté de prendre sa revanche en remaniant son travail et en publiant à ses frais la dissertation sur la musique moderne, où il exposait clairement sa méthode d'enseignement. Et pour le démontrer, il raconte qu'il a d'ailleurs pendant quelques mois donné gratuitement des leçons de musique à une jeune américaine, une certaine demoiselle Desroulins. Mais après ça, il est aussi passé à la pratique. Il avait déjà à Chambéry composé un opéra, Les Muses Galantes, qui sera éreinté par Rameau chez le financier La Pouplinière, Rameau n'aimant pas du tout qu'on marche sur ses brisées dans un salon où il régnait en maître. Il fera surtout en 1752 le Devin du village, qui sera un énorme succès jusqu'à la moitié du 19e siècle, et qui est une fort jolie musique, d'ailleurs, ce n'est ni du Mozart ni du Beethoven, entendons-nous. Mais enfin, c'est une fort jolie musique, et le Devin avait eu un extraordinaire succès, au point que, raconte Rousseau et d'autres d'ailleurs, le lendemain de la représentation à laquelle assistait le roi, eh bien, Louis XV chantait des airs du Devin avec, dit-il, la voix la plus fausse de son royaume.
C'est pourtant pas comme musicien qu'il a traversé les siècles et la postérité. Est-ce qu'on le joue encore ? Est-ce qu'on donne encore ses opéras à votre connaissance ?
Non, très rarement et pour des occasions du genre du centenaire par exemple, on reprendra le Devin du village.
Oui.
Ce n'est évidemment pas ainsi qu'il s'est imposé, mais enfin, il est musicien et il est compétent au point d'écrire des ouvrages théoriques où il est capable de jouter contre Rameau, qui est un des plus illustres musiciens du 18e siècle. Et par la suite, d'ailleurs, il fera un énorme dictionnaire de musique, dictionnaire qui est le résultat des articles qu'il avait déjà écrits en 1749 pour l'Encyclopédie, dont le premier volume paraîtra en 51, et il fera encore, tardivement, vers 1776, il fera encore d'importantes réflexions sur la musique de Gluck, qui était venu alors à Paris et qui avait d'ailleurs tenu à rencontrer M. Rousseau et à prendre ses conseils. C'est dire que le musicien n'est pas négligeable non plus,
pas du tout,
même s'il s'impose davantage par la théorie que par la pratique. D'où, en 53, sa fracassante lettre sur la musique française, de première importance à l'époque dans le domaine esthétique, puisque c'est l'endroit où Rousseau conteste la musique officielle, celle de Lully et de Rameau, qui est celle du régime, qui est la musique royale, si vous voulez, ou royaliste. Ça va plus loin que ça n'en a l'air, parce que la musique à la Rameau étant la musique officielle du régime, c'est une musique cartésienne, un peu comme les jardins de Lenôtre. Ça signifie simplement que c'est la musique du pouvoir, de l'establishment. Ce qu'il propose, lui, opposé à cette musique qui est intellectuelle, qui est cérébrale, qui demande des connaissances, du savoir, c'est la mélodie qui, elle, est innée en chaque homme. Autrement dit, si on ose dire, c'est une musique de gauche. Autrement dit, même l'esthétique prend dans ce contexte une certaine signification politique. Ce qui fait que les partisans de la musique italienne se rassemblent tous, ce sont les philosophes d'Alembert, Grimm, Diderot, dans le coin de la Reine, là où se trouve la loge de la Reine, à l'opéra, et au contraire, les partisans de la musique officielle, sous le coin du roi.
Est-ce que cela va au point que Rousseau, dans sa méthode éducative, pédagogique, conseille justement que les enfants apprennent la musique ? Est-ce qu'il en parle en éducateur, j'allais dire ?
Non. Il ne faut pas oublier que, justement, si on parle d'éducation dans ce cas-là, l'éducation d'Émile n'est pas une éducation où compte l'apprentissage d'un savoir. C'est ce que Rousseau appelle l'éducation négative. Il faut préserver dans l'enfant l'innocence et la bonté naturelle, laisser se développer essentiellement d'abord le corps, et ce n'est qu'à partir d'un certain âge que l'enfant pourra accéder peu à peu aux connaissances, mais toujours de manière pratique, jamais livresque. « Je hais les livres, » dit-il dans Émile, « ils n'apprennent qu'à parler de ce qu'on ne sait pas. »
Avec Raymond Tousson, quatrième mot que nous allons aborder, mot surprenant peut-être, chez Rousseau, le mot prière. Sans doute pas, parce qu'il était tout de même religieux.
Rousseau a évidemment reçu une éducation religieuse, d'abord jusqu'à 16 ans, une éducation calviniste, qui restera d'ailleurs profondément ancrée en lui, malgré sa conversion au catholicisme en 1728, dont il sortira en 1754 pour redevenir officiellement protestant. La prière n'a donc, en somme, pour un croyant, apparemment rien que de banal. Ce n'est pas tout à fait le cas chez Rousseau. Les prières qui ont été conservées sont encore des prières qui datent de l'époque des Charmettes du côté de 1735-38. Il s'agit de deux prières tout à fait significatives qui sont avant tout une élévation du cœur et de l'âme vers le Créateur. Et surtout, et Rousseau restera ferme là-dessus, ce ne sont jamais des prières de demande, ce sont des prières de grâce. Et comme dit Rousseau, dans la profession de foi du vicaire savoyard, que puis-je demander à Dieu puisqu'il m'a déjà tout donné ? Il suffit que je me serve, selon ma conscience qui est un instinct divin, de tous les instruments qu'il m'a donnés pour être un homme juste, droit, bon, vertueux, je n'ai rien à lui demander.
Là aussi, est-ce qu'il suggère que l'on éduque les enfants ou qu'on les élève avec de la religion et qu'on leur apprenne la prière ?
Là, c'est une des choses qui fut le plus contestée à l'époque. Au contraire, à la surprise générale, tant des protestants que des catholiques, bien entendu, Émile n'entendra jamais parler de Dieu avant 15 ou 16 ans. Tout simplement parce que Rousseau refuse radicalement l'enseignement d'un catéchisme, qui était évidemment traditionnel, qui bourre la tête de l'enfant de notions auxquelles il ne comprend absolument rien. Comme il dit, si on demande à l'enfant s'il croit en Dieu, il ne croit pas en Dieu. Il croit à Pierre, Paul ou Jacques qui lui ont dit qu'il y avait un Dieu. La religion est une chose trop sérieuse pour la donner à des enfants qui la déforment, qui en font finalement un déguisement, une caricature. Il faut attendre qu'il ait la maturité nécessaire. Et lorsque ce moment est arrivé, c'est le grand épisode de la profession de foi du vicaire savoyard, où un jour, à l'aube, sur une haute colline dominant le Pô, un jeune prêtre dit à son élève, qui est d'ailleurs Jean-Jacques Rousseau lui-même, « Tout ce qu'il faut comprendre devant cette nature où tout parle de Dieu, en rejetant tout ce qui est dogme, ce qui est mystère, tout ce qui est incompréhensible à l'esprit humain. La religion de Rousseau est une religion de l'affectivité, de l'émotivité, du sentiment. Il y a chez lui un élan religieux. Alors que Voltaire, qui n'est certainement pas un athée, c'est un déiste bien sûr, mais c'est un déiste rationaliste qui respecte un Dieu organisateur, horloger, organisateur du monde. Comme disait Voltaire, je ne puis croire que l'horloge existe et qu'il n'y ait pas d'horloger. Pour lui, c'est du rationalisme, c'est une conclusion. Chez Rousseau, non, il éprouve Dieu en lui-même.
Il est mystique ?
Non, il n'est pas mystique. Curieusement, c'est un religieux rationaliste, qui d'ailleurs n'est pas du tout dépourvu de scepticisme, ce qui lui fera aussi des ennuis, soit pour Émile, soit pour les lettres écrites de la montagne. Il ne croit pas aux miracles. Il dira par exemple cette phrase qui scandalise bien sûr tout le monde, « Vous croyez à Jésus à cause de ses miracles, moi j'y crois malgré ses miracles. » Tout ce qui est dogmatique, tout ce qui est mystère inconcevable à la religion humaine lui semble de très peu d'importance, et c'est ce qu'il reproche d'ailleurs aux croyants de son temps. « Vous subtilisez, dit-il, tout ce qui est la doctrine de l'Évangile qui est la seule vraie, la seule valable. Le résultat, dit-il, nous sommes tous devenus docteurs. » Et nous avons cessé d'être chrétiens.
Autre mot abordé, peut-être inattendu chez Rousseau, le mot recette. Est-ce que ce sont des recettes de cuisine ou des recettes financières ?
Non, ce ne sont même pas exactement des recettes de Rousseau. Ce sont les recettes justement que Rousseau n'aimait pas et qui étaient tirées de ces plantes que Claude Anet allait cueillir et dont on tirait des remèdes pour le rhume, pour la grippe, pour la rougeole, pour les boutons, pour tout ce qu'on voudra bien entendu. C'était au contraire une passion de Madame de Varens qui la tenait elle-même de son père. Et l'on possède 3 cahiers manuscrits qui contiennent environ 115 recettes de ce genre, qui forment un petit peu, ce qu'on appellerait une pharmacie de bonne vieille grand-mère, en quelque sorte. Tout,
ça revient à la mode.
Et le tout, bien sûr, à partir des plantes, des simples, etc. Et il y a une scène délicieuse, d'ailleurs, dans les confessions, où Madame de Varens prépare toutes ses recettes, veut absolument les faire goûter à Rousseau. C'est une scène charmante où ils se poursuivent dans la maison, elle tenant absolument à lui faire sucer ses doigts enduits d'un produit plus ou moins agréable ou nauséabond, et lui fuyant donc rire, bonheur, etc. Ce sont donc des recettes de Madame de Varens et non de Rousseau.
Je pense qu'on devrait peut-être les rééditer, après tout. Aujourd'hui, elles auraient peut-être un succès inattendu.
Qui sait ?
Qui sait ? Dernier mot avec Raymond Trousson. Est-il un mot rousseauiste ? Le mot domestique, au singulier ou au pluriel, les domestiques, était-il lui-même un domestique chez quelqu'un ? Comment aborde-t-il cette question ?
Rousseau a eu un mot très dur. Il disait « Les domestiques sont les derniers des hommes après leur maître. » Les maîtres étant encore pires, bien sûr, puisqu'ils représentent hiérarchie et domination. Il déteste les domestiques. D'abord parce qu'il en a une expérience personnelle. Lorsqu'il fuit Genève en 1728, il est converti à Turin au catholicisme, il doit trouver une place. Il est d'abord laquais chez Madame de Versélis, puis il est dans une situation un peu ambiguë, à la fois laquais et disciple, dit-il, dans la maison du comte de Gouvon, car on s'est aperçu que ce garçon est mieux qu'un laquais, il est intelligent, il a une certaine culture. Ce que Rousseau reproche aux domestiques, c'est d'abord leur servilité. Ils sont aussi le symbole même de l'aliénation. Ce sont des gens qui ont renoncé à leur liberté, non pas pour travailler, car pour Rousseau, le travail est éminemment noble. C'est bien pour Émile, qui est noble, apprendra pourtant le métier de menuisier. Ils ne travaillent pas, ils servent. Et pour Rousseau, il y a là le signe d'une aliénation fondamentale qui est celle de la liberté individuelle et de la dignité humaine et, bien entendu aussi, le symbole même de l'ordre social, profondément hiérarchisé, qui met les uns en haut de l'échelle, sans justification particulière, ils sont très riches ou ils sont aristocrates, et les autres tout en bas. Le seul endroit où les domestiques soient raisonnablement accepté, c'est dans son roman La Nouvelle Héloïse, dans le domaine de Clarins, où, sous la houlette de monsieur et madame de Volmar, mais qui sont évidemment des personnages extraordinaires, des êtres de l'autre monde, comme il dit, les domestiques sont là intégrés
à
dans,
la famille, oui.
Dans une communauté familiale et rustique. Monsieur de Volmar se comporte en fait en pater familias. Et au sens propre du terme, d'ailleurs, puisque à l'époque ça peut encore se dire, Rousseau dira par exemple qu'il a été le domestique de monsieur de Montaigu, qui était ambassadeur de France à Venise et qui avait employé Rousseau. Mais domestique doit alors s'entendre dans le sens que le mot avait à l'origine, c'est-à-dire qu'il fait partie du domus,
la gens de la, maison,
de la maison. Et ça comprend aussi bien les gentilshommes que le dernier des laquais. Il n'a donc pas été chez lui domestique à proprement parler, il était même secrétaire d'ailleurs dans ses fonctions, mais le terme est là. Mais toute sa vie, il sera hostile à ce principe de la domesticité qui engendre d'ailleurs aussi chez les domestiques toute une série de vices. L'envie, la rapacité, la cupidité, la haine de leur maître qu'ils dissimulent naturellement sous la déférence obligée. C'est donc un état d'aliénation et de dégradation.
Un mot profondément détesté par Rousseau. Merci Raymond Trousson de ces explications, de ces commentaires sur ces 6 mots. On n'en a pris que 6, bien sûr, il y en aurait beaucoup d'autres. Tous les autres sont dans le dictionnaire de Rousseau, paru aux éditions Honoré Champion, un dictionnaire que vous avez dirigé avec Frédéric Egeldinger. Dans la seconde émission que nous vous proposons, consacrée au dictionnaire de Rousseau, vous aurez 6 autres mots, des mots beaucoup plus évidents. Amitié, athéisme, citoyen, correspondance, éducation et Jésus-Christ. Je vous invite donc à écouter cette seconde émission et je vous rappelle qu'une autre émission peut être aussi écoutée et téléchargée sur Canal Académie avec Raymond Trousson. C'est une émission dans laquelle vous nous aviez présenté, Monsieur Trousson, 4 auteurs du 18e, 3 très connus, Voltaire, Rousseau et Diderot, et 1 qu'on avait un peu oublié, académicien, poète et auteur dramatique qui mérite d'être redécouvert, Antoine Vincent Arnaud.
C'est bien ça.
Merci beaucoup.
Je vous remercie.